Et un bon samedi matin à toutes et à tous. Bienvenue sur Radio Libertaire, la radio qui n'a ni pub ni système hiérarchique. Si vous peinez encore à ouvrir les yeux, que ce soit en intraveineuse ou simplement à boire, préparez-vous un bon café ou tout autre breuvage qui vous réveille. Notez que nous ne solliciterons que vos oreilles, ainsi vos paupières peuvent rester closes. Vous pouvez toujours donc écouter le chiffon qui radote. Et s'il radote avant d'atteindre l'âge mûr, c'est que les choses ont été dites, ou plutôt écrites, dans le chiffon. Oui, le chiffon, le journal indépendant de Paname et sa banlieue, journal régional d'enquête, de réflexion, de dissection du temps présent. Technocritique, ou en tout cas avec la volonté de ne pas trop s'en laisser compter, et se laisser éblouir par tout ce qui brille, par la dite modernité qui n'a parfois de moderne que le nom. Le tout agrémenté de portraits de personnalités qui dessinent une autre Île-de-France, à l'image de mes invités de ce matin. Et quelques coups de gueule lorsque trop, c'est trop. D'ailleurs, si vous avez des idées, notre équipe ne tend qu'à s'étoffer et cherche toutes les bonnes volontés. Rassurez-moi, j'ai bien dit indépendant ? Oui, point de financement directif ou autre pression du chiffre. Ce journal papier est réalisé à la seule volonté de petites mains bénévoles. Et nous n'avons d'autre ligne éditoriale que ce qu'il se passe dans la région et l'œil aussi ouvert que possible sur le monde. Pas de kiosque officiel, seulement quelques points de vente disséminés dans toute l'Île-de-France à retrouver sur notre site lechiffon.fr, nous y reviendrons en fin d'émission. Chaque mois, un thème de réflexion, une lutte, un combat, une bouteille à la mer pour mieux comprendre les enjeux du monde d'après. Le thème de ce matin, à cela de beau qu'il traite de l'après avec un petit parfum d'avant, dans un article hors dossier paru dans notre numéro 7. Et la profession dont nous allons parler ce matin en l'éclairant par un prisme inédit est une des plus sinistrées de France. Les 15-64 ans qui y officient présentent un taux de suicide accru de 43% par rapport aux autres assurés de l'ensemble des régimes de sécurité sociale. Et les plus de 65 ans ont un risque de suicide deux fois plus élevé que l'ensemble de cette tranche d'âge. Vous l'avez peut-être deviné, on parle ce matin du monde agricole. Depuis la politique agricole commune, l'herbe n'a pas vraiment verdi. À mes côtés ce matin, nos invités ont à cœur de proposer autre chose. D'abord, Habib, dont j'aimerais introduire la présence en citant son résumé de ce qui se trame tout de suite. Je cite « C'est important de voir que ce qu'on veut construire ces dernières années s'apparente à des luttes qui ont plusieurs décennies d'histoire. Mais en même temps, en la découvrant, je me suis dit qu'on est toujours dans les mêmes galères depuis les années 70. » Tout un programme. Après avoir traversé la mer, ils affirment aujourd'hui vouloir retrouver la terre. Bonjour Habib, pouvez-vous vous présenter, vous et votre parcours exceptionnel ?
Bonjour, merci d'abord de m'accueillir ici. Moi c'est Habib, je viens du Soudan. Et je suis artisan, je fabrique des fours à pain. Et mon parcours de migratoire, j'arrive en France ici 2014 et je me trouvais sur Calais, essayant aussi passer à l'Angleterre et j'ai passé quelques mois là-bas et quand ça n'a pas abouti quelque chose, en fait j'ai décidé à la fin, comme j'ai des responsabilités de mon part, de mes parents, mes soeurs et mes frères. Donc j'ai décidé à demander l'asile en France ici. Et il y a des copains qui m'ont aidé en fait. Ils m'ont aussi accueilli à l'asile de Notre-Dame-des-Landes.
L'asile de Notre-Dame-des-Landes, oui.
Ouais. Et c'était cool pour moi parce qu'arriver en France ici, tu ne parles pas la langue. C'est difficile quoi, parce que la langue c'est la clé de vie quoi. En arrivant là-bas, en fait, j'ai commencé à mes demandes d'asile et j'ai commencé à travailler avec des paysans, des artisans sur place pas mal d'activités. Et je commence aussi à apprendre le français qui je parle aujourd'hui. Donc ça m'a beaucoup aidé. Et je suis merci pour en tout cas pour l'ASAD et pour des amis qui m'ont accueilli là-bas. Et suite de ça, en fait, j'ai suivi une formation de fabriquer des fours à pain avec l'atelier Paysan. Et depuis, je m'entraîne pas mal en France pour fabriquer des fours à pain boulanger mobile pour le réseau IBM qui existe là, celui de notre atelier à fabrication des fours à pain. Et tout de suite, j'ai pas mal... À la fin de l'ASAD, c'est fini, 2018. Je m'en suis trouvé à Paris, sur Saint-Denis, avec mon atelier, avec des collègues qui j'ai travaillé ensemble. Et je continue toujours aussi à fabriquer des fours à pain. Et...
Donc une insertion par la langue et la paysannerie, on va y revenir. J'aimerais juste présenter mon deuxième invité de ce matin. Vous êtes parti de votre village à 14 ans pour rejoindre l'Italie, après une traversée de la Méditerranée depuis l'Algérie. Après plusieurs années de rue, vous participez en septembre 2020 à la marche des sans-papiers qui relie Marseille à Paris. Vous rencontrez alors des militants dans le cortège qui vous parlent de la zone à défendre de Saclay. Bonjour Sembala, bienvenue.
Bonjour. Merci beaucoup d'avoir m'invité ici aujourd'hui. Et je m'appelle Sembala, je suis malien. Je suis en France depuis 8 ans. Et j'ai quitté mon pays parce que j'ai vu beaucoup de choses qui sont en train de passer devant mes yeux, à mon âge. Ça m'a fait beaucoup de mal. Et à mon âge, j'ai dit, bah, j'ai réfléchi de sortir dans mon village, d'aller voir ailleurs qu'est-ce qui se passe là-bas. Et j'ai commencé à travailler. Et à le moment que je n'ai pas de force, et je ne peux pas travailler. Mais j'ai essayé quand même de travailler pour gagner ma vie et faire avancer, quoi. Et depuis les 14 ans, j'ai travaillé pour arriver en Europe, pour arriver en France. Donc je commençais à travailler Mali et Algérie, j'arrive à Libye et je suis arrivé en Italie. À mon arrivée en Italie, j'ai resté là-bas juste un mois. Après je suis parti, quoi, je suis arrivé en France. J'ai arrivé en France en 2014. Et depuis que je suis arrivé en France, j'ai rencontré que des galères. Et vivais à la rue et avec du froid, la pluie. En même temps, je parle même pas en français, rien du tout. Et j'ai du mal à me communiquer avec des gens. Je vois des gens, je les arrête et j'ai envie de m'exprimer mes besoins. Mais je n'arrive pas à cause de ça parce que je parle pas français.
Ouais, pourtant, vous êtes à ce micro ce matin et merci encore d'être venu si tôt. Je présente mon troisième invité et on va y revenir car vous avez fondé un collectif qui peut potentiellement modifier le paysage d'Île-de-France en profondeur. Nous recevons la taulière de la ferme des Montgardés sur la commune de Clé-Souilly dans le 77, un ancien site qui se retrouve au début des années 2000, particulièrement infertile. En 2006, vous fondez un projet expérimental de ce que vous définissez comme de l'agroforesterie. On y revient. D'élevage et de maraîchage. Agnès Sourisseau, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue sur Radio Libertaire. Est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots votre parcours avant que nous rentrions dans le vif du sujet?
Oui, alors, moi je viens d'une famille de paysans, c'est-à-dire mes grands-parents étaient paysans meuniers dans un moulin à vent. Et mes parents, par contre, se sont éloignés du monde agricole par choix, et puis aussi parce que c'était des métiers qui étaient très peu valorisés par leurs parents. Et donc, ils se sont affranchis de ce monde agricole. Moi, j'ai eu un parcours, qui a tourné autour de l'environnement, de la de la connaissance en fait des milieux. Et j'ai toujours été intéressée par les lieux qu'on appelle des délaissés ou des sites dégradés, que ce soit des anciennes friches industrielles, enfin que ce soit des zones qui finalement sont le produit de la société dans laquelle on vit, c'est-à-dire qu'on fabrique beaucoup de déchets, beaucoup de choses qu'on met sur le bas-côté. Et donc il y a énormément de lieux comme ça qui sont qu'on appelle même des délaissés. Et donc, ma formation, elle est à la fois agricole, environnementale, et également artistique, puisque j'ai un diplôme artistique. Donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a une grande transversalité entre le monde agricole et on dirait agriculturel, en fait. Et je pense qu'il y a un vrai sujet sur la culture et l'agriculture. Et donc, mon parcours m'a amené à me concentrer plus particulièrement sur cette ferme, on va dire, des Monts Gardés, qui est un vrai délaissé, qui était un site qui avait servi de base vie de chantier pour le TGV Est. Et donc, c'est une propriété de la SNCF. Et donc, j'ai œuvré depuis 2006 pour essayer de restaurer ce lieu. Et je me suis rendu compte à quel point l'agriculture qu'on considérait comme capable de dégrader des sols et des milieux était aussi capable d'agrader. Et donc, des techniques très paysannes, très peu mécanisées, permettent aujourd'hui, j'en suis convaincue, de retrouver à la fois de la fertilité et puis des paysages vivants. Voilà, donc c'est mon cheval de bataille depuis 2006.
Agrader des territoires, ça c'est une notion qu'on n'entend pas beaucoup.
Bah, c'est le contraire de dégrader.
Oui. Mais on entend souvent le contraire. Et du coup, ça se distingue vraiment de la pratique de la jachère, qui est le fait de laisser un champ au repos pour rester fertile. Là, vous parlez de zones qui sont laissées à l'abandon de fait, un abandon contraint.
Oui, bah là c'est pas le cas, en fait. C'est vraiment l'action combinée de l'homme. Et puis également, en fait, les alliés pour cette agradation, c'est le végétal, donc les arbres et les herbes, et les animaux. Et l'humain comme pierre de l'édifice.
Eh bien, on va reparler d'agrader des territoires et de les refertiliser après ce tour d'horizon de personnalités réunies ce matin. Avant d'entamer le vif du sujet, laissons-nous quelques instants enivrés par un groupe qui redonne ses lettres de noblesse à la pop française avec un titre particulièrement adapté pour regarder l'aube. Vos paupières sont ouvertes, je l'espère. Nous écoutons La Femme, Time to Wake Up.
It's time to wake up.
Et oui, l'herbe verte et le vin est rouge, comme disait la femme. C'est toujours Le Chiffon qui radote, le journal de Paname et sa banlieue. Et il ne radote que dans le titre de son émission. Avec nous ce matin, trois acteurs d'un autre monde de demain qui fécondent des terres en souffrance et répondent à des besoins criants. J'aimerais introduire le propos en vous portant la parole de Tariq, qu'un chiffonnier était parti interviewer, ancien étudiant de Paris 8 et membre fondateur d'A4, interviewé par un chiffonnier sur l'enjeu des installations des exilés dans les campagnes françaises ces prochaines années. Il évoque, je cite, qu'en 2030, la moitié des agriculteurs de la région, aujourd'hui en activité, seront partis à la retraite. Il y a un besoin urgent d'organiser la relève. Et puis, nous sommes entrés dans une crise climatique qui nécessite de repenser la place de l'agriculture industrielle au profit d'une agriculture paysanne qui nécessite plus d'humains. Moins de machines, plus d'humains. Et enfin, nous connaissons une montée de l'extrême droite qui rend urgent de briser l'entre-soi. Et justement, d'entre-soi, parlons-en. Un petit clin d'œil à nos amis de Radio Parleur. Alors qu'on pointe souvent la sectorisation des luttes, chacun dans sa chapelle, pouvez-vous nous décrire ce qui fait la spécificité de vos deux initiatives et en quoi c'est une initiative transversale ? Agnès, peut-être d'abord ?
Alors, je ne sais pas de quelle initiative précisément vous parlez. Le côté transversal des luttes, alors effectivement, là, la ferme des Montgardets, en soi, comme je disais, fait converger plusieurs problématiques, plusieurs luttes. Donc il y a le fait de pouvoir redonner de la vie à des territoires qui ont été malmenés. Après, c'est vrai que toutes ces questions m'ont amené à me poser à m'interroger sur où allait l'agriculture aujourd'hui. Et donc, c'est vrai que ces pratiques qu'on appelle agroforesterie permettent d'envisager une agriculture qui serait du coup beaucoup plus imbriquée dans toutes les fonctions du territoire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on se forme en agriculture, il faut qu'on choisisse sa spécificité. Soit on est céréalier, soit on est maraîcher, soit on est forestier même. Mais en fait, l'agroforesterie mélange un petit peu tout ça. Et donc, ça trouble, puisque ça ne rentre dans aucune case. L'agro-silvopastoralisme, également, en fait, c'est des choses qui sont tout à fait entremêlées. Et donc, ce décloisonnement des métiers agricoles, pour moi, est vraiment impératif. Et il y a beaucoup de choses qu'on a désapprises par l'agriculture industrielle et notamment des savoir-faire qui aujourd'hui doivent être réappropriés pour être en mesure de créer cette agriculture d'avenir qui s'inspire beaucoup du passé, c'est vrai, qui est une agriculture qui est beaucoup plus respectueuse en fait du vivant en général et qui doit faire avec. Alors si c'est ça l'objectif, bah, effectivement le vivant c'est à la fois les humains qui l'habitent, les animaux, les plantes, enfin tout doit être pris en compte. Donc effectivement après la place de l'humain dans cet avenir-là, il doit être également interrogé. C'est-à-dire que si on a besoin de plus de bras pour faire cette agriculture, où sont les bras et qui va venir, qui a envie de participer à cette forme d'agriculture qui a été tellement dénigrée par le passé. Aujourd'hui, quelle est sa place ? Et donc là, c'est un petit peu ce dont on parle, c'est-à-dire que il y a à la fois des compétences qu'on a perdues en France, dans d'autres pays une agriculture qui est très agroécologique parce que justement peu de moyens industrialisés et donc elle est restée agroécologique. Donc je pense qu'il y a beaucoup de rapprochements à faire et puis de faire en sorte qu'on travaille ensemble, ça me paraît absolument indispensable.
Et de coopération humaine, il en est question. Nous avons autour de la table Habib et Sembala, des membres fondateurs du collectif A4, qui n'est peut-être pas évident pour tout le monde. Est-ce que vous pouvez revenir aux fondamentaux, nous présenter votre collectif ? Car il est question de coopération humaine.
A4, ça dit association, accueil, agriculture artisanale. L'idée de l'asso, en fait, elle est née à partir de plusieurs discussions en fait, entre, entre nous, en fait, qui se trouvaient à la ville. Et il y a des membres aussi fondateurs, en fait, qui étaient à la campagne aussi, qui travaillaient déjà dans l'agriculture. Donc, moi, j'étais pas mal dans la campagne, Arvon à la ville. On se posait des questions avec les copains, Sambala, Tariq et tout ça. En fait, bah, on dit, il y a beaucoup de migrants qui arrivent en France aussi, qui ont des compétences dans leur pays d'origine, et artisanal ou agriculture. Mais en arrivant aussi en France aussi, en France, ils se trouvent au travail des bâtiments et de ménage, la restauration, ils travaillent sur l'éponge. Donc, c'est aux gens qui sont vulnérables, en fait, qui se trouvent à la ville et pas d'autre choix, en fait, aller à la campagne, comme il y a beaucoup de gens qui pensent la campagne est la réserve juste pour les Français. Donc, ils sont restés à la ville en disant que je suis là. Je connais pas mal peut-être de mon communauté, je ne vais pas sortir là et je suis obligé de faire du travail qui ne me plaît pas. C'est pour ça qu'on a réfléchi en fait de fonder cette association pour permettre en fait d'ouvrir les portes entre la ville et la campagne et des gens librement, ils peuvent donner plus en fait des possibilités à ces gens qui disent bon, ok, la campagne elle est là, il y a des choses à faire.
Partager des savoirs,
c'est ça, partager
et
des savoirs.
Valoriser ce que vous amenez de l'autre bout du monde. Sambala, une réflexion?
C'est l'idée de l'asso, c'était vraiment, même les premières fois que moi j'ai entendu, et j'ai dit que c'était quelque chose que j'aimerais entendre plusieurs années depuis que je suis en France. Et c'est une opportunité que voilà, du coup, je puisse partager mon savoir-faire et ce que je connais, ce que j'ai appris. Et l'idée, j'ai participé et j'ai voyagé avec. Et j'ai vu plein de choses qui se passent. Mais ce qu'on entend, et c'est pas les seules choses qu'on trouve à la campagne. Donc, mieux savoir, il faut toi-même tu sois dans cet domaine et savoir plus. Comme ça, tu peux parler. Donc là, j'ai participé, je vois comment ça se passe. Et comme Abu vient de dire certains mots, et qu'on arrive dans notre pays, quand on était là-bas, on travaille. On a des compétences, on a des expériences, on a des choses qui peut servir ici, mais pour servir, il faut que tu me donnes la place pour moi, et je puisse participer à mon savoir-faire avec toi. Mais je travaille avec toi, mais je n'ai aucun choix pour moi-même, je ne peux pas décider ce que je dois faire.
Et la place, elle est toute désignée.
La place est fermée.
Oui, mais l'espace est là.
Ouais.
Il y a un recul du nombre d'agriculteurs en France. Votre place est toute désignée. Alors, un des objectifs de votre association, c'est de construire, je cite, une dynamique d'accueil, de formation et d'accès au travail par un accompagnement, point très important, de personnes avec et sans papier. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus?
Oui, on a dit, pour créer cet asso, c'est pas juste ceux qui ont des papiers. Parce qu'il y en a qui se trouvent en France, qui en est ici, mais qui ont des difficultés d'accès dans ce domaine agriculteur ou qui ont envie d'être à l'aise ou sentir soi-même. Mais ils se trouvent à un endroit, mais tout le monde montre le doigt. Tu n'es pas, toi, tu n'es pas à l'aise juste faire ce travail. Donc, ce n'est pas quelque chose qui, pour moi, est clair, quoi. Il faut que tout le monde soit être à l'aise là où il doit être là-bas. Et être soi-même. Donc, nous, on crée cet asso d'avoir donner des possibilités à chacun, envie d'avancer sa vie, envie de faire ce qu'il plaît. Et c'est une bonne opportunité pour nous. Donc, on est en train de travailler dessus pour trouver des solutions et créer vraiment une bonne dynamique entre nous-mêmes d'abord, que nous qui travaillons ensemble.
Je peux rajouter un truc, en fait, sans papier, parce que nous aussi, on a vécu la galère de papier, on a répondu aussi en France, en fait. On sait très bien, ça veut dire quoi, si tu n'as pas de papier, quoi. Donc, on voulait aider, en fait, des gens qui ont de papier et qui n'ont pas de papier. Parce que, pour nous, c'est la chose essentielle, en fait, on se sort ensemble, quoi. C'est pas juste, en fait, tu réfléchis juste à toi, c'est un truc égoïste, quoi. Donc nous, on n'a pas ça, on est là, pour, il faut qu'on réfléchisse ensemble, on travaille ensemble pour trouver des solutions pour nous et pour les autres.
Donc faire communauté, coopérer, revaloriser des territoires à l'abandon. Agnès, quel type de gens coopèrent avec vous dans votre ferme, qui est un projet pionnier, on le rappelle?
Alors, moi j'ai envie de dire à quel point c'est difficile de trouver des personnes qui ont envie de s'investir au-delà de l'idée. C'est-à-dire, l'idée de vouloir travailler la terre peut être une idée séduisante pour certains urbains. On peut constater qu'il y a une tranche d'âge plutôt sensibilisée à ça. C'est, je dirais, les trentenaires, quadragénaires, quinquagénaires. Qui ont envie, après avoir fait une partie de leur vie dans une autre branche, et qui ont une sorte d'appel de la terre. Alors, c'est super, parce que c'est vrai que c'est une nouvelle génération qui s'investit autrement. En revanche, c'est pas toujours dans la durée, parce que c'est vrai que ça demande... C'est des métiers où on est quand même dehors, où le corps est beaucoup sollicité. Il faut pas se le cacher. Pour certaines personnes, ça va être plus difficile que d'autres. Et je pense que ça fait partie des métiers qui mobilisent le corps et l'esprit. Il faut que les deux soient en accord. Et si on ne fait que penser à l'agriculture sans avoir préparé son corps, effectivement, ça bloque. Donc moi, je pense qu'il faut vraiment travailler sur cette caractéristique-là. C'est-à-dire, c'est pas des métiers du tertiaire. C'est vraiment très différent. Et on est au monde complètement différemment quand on travaille les champs, la terre. Pour moi, à un moment donné, je me suis posé la question, mais qui est vraiment en mesure de pouvoir travailler dans ces conditions-là? Et est-ce que les jeunes, puisqu'on a besoin de jeunes aussi dans les champs, seraient intéressés par ces métiers? Alors, on constate que c'est des métiers qui sont absolument pas valorisés auprès des jeunes. Pour moi, c'est vraiment problématique, parce que les jeunes, ils ont la fougue de la jeunesse, l'énergie, ils ont... Et je pense que cette méconnaissance du métier agricole, dans ce que ça peut être dans l'avenir, c'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a énormément de difficultés, vous l'avez rappelé en début d'émission, c'est aujourd'hui des difficultés qu'il faut réussir à lever, parce que c'est vraiment des métiers d'avenir. Et ces métiers d'avenir-là, il faut pouvoir intéresser les jeunes. Du coup, on a monté un lycée agricole. Alors, quand je dis « on est trois porteurs de projet. Donc, c'est moi-même qui représente en fait une association d'agriculteurs qui s'appelle Agrofil, qui veut dire agroforesterie en Île-de-France. Et donc, au début, il y avait très peu d'adhérents ou de participants. Aujourd'hui, il y a quand même presque, on va dire, entre 60 et 100 agriculteurs qui se sont lancés dans cette diversification de leur système, quel qu'il soit en bio, pas bio, enfin c'est pas le sujet en fait. Le sujet, c'est comment diversifier leur production en réintroduisant l'arbre et l'élevage si possible, et surtout travailler sur la fertilité des sols. Donc ces agriculteurs se rendent compte aussi qu'ils ont besoin de main d'œuvre complémentaire. Ils savent pas tellement où la trouver. Les lycées agricoles aujourd'hui n'apportent pas forcément les formations qu'il faut. Ce lycée agricole qu'on a ouvert avec Agrofil, le domaine de Courance, qui est un domaine de 2000 hectares, où avant il y avait 50 travailleurs, aujourd'hui il n'y a plus qu'un chef de culture, et pour autant il y a une diversification qui se met en place. Donc il y a besoin d'accueillir du monde dans cette ferme. Donc c'est le plateau technique du lycée agricole. Et puis il y a l'INRAE, IDEAS, qui est un groupe de chercheurs qui associe des chercheurs de l'INRAE et d'AgroParisTech pour réunir les sciences sociales et les sciences techniques, parce que le problème, il est à la fois social et technique. Donc, à nous trois, on a monté ce projet de lycée agricole qui a ouvert ses portes en septembre 2022. Et là aussi, on s'est confronté à la difficulté de recruter des élèves. C'est-à-dire que, en fait, on a ouvert avec 9 élèves. avec trois formations qui sont CAP des métiers d'agriculture, Bac Pro gestion des milieux naturels et de la forêt, et Bac Pro conduite et gestion d'une exploitation agricole. Sachant que les deux Bac Pro travaillent main dans la main, parce que il ne s'agit pas justement de garder encore ce cloisonnement entre la production agricole et la protection de l'environnement. Il faut que les deux, en fait, puissent avancer ensemble. Et donc, on n'arrive pas on a de grosses difficultés à recruter. Donc.
Et de cette mauvaise presse, justement, du travail de la terre aujourd'hui, Habib, vous revenez bien là-dessus. C'est en France comme au Soudan. Vous dites que beaucoup pensent que l'agriculture est très difficile. Généralement, les parents vous poussent à faire des études pour pas souffrir comme eux. Les jeunes ne veulent plus travailler dans la culture de la terre. Comment vous présenteriez votre... Je m'adresse à vous deux, fondateurs d'A4. Hein. Vous racontez qu'ils ne comprennent pas que ce qu'on fait par nécessité au bled, ici on le fait par choix. Qu'est-ce que vous voudriez dire à la jeunesse qui est restée là-bas, comme à la jeunesse de France d'ailleurs, qui ne s'y intéresse plus?
Comme Agnès l'a dit tout à l'heure, en fait, le métier d'agriculture, il devient en fait, c'est pas... Elle est pas en fait donnée de valeur. C'est pour ça que les jeunes générations, ils n'ont pas intéressé du tout, quoi. Donc c'est pour ça que nos parents, ils nous poussent, en fait, de... Comme ils ont travaillé la terre dans toute leur vie, à la fin, ils se trouvent, on ne gagne rien. Donc, on ne va pas laisser nos enfants qu'ils fassent ces trucs. Il faut qu'ils étudient, qu'ils voient, en fait, la vie simple. Ça, c'est leur manière à penser, c'est comme ça. Et...
C'est malin, un mot?
Ce qu'il vient de dire, c'est justement, mais parce que ça ne peut pas dire l'air. Et ils ont vécu sans rien, ils n'ont pas gagné toute leur vie. Mais ça ne dure pas que nous aussi, dès qu'on essaye, on ne gagne pas. Mais ça dépend. Peut-être les façons qu'eux, ils travaillent. Et ils ne sont pas vraiment. Ils sont réfléchis, mais ils n'ont pas trouvé de solution. Donc nous, on peut sentir des méthodes et les façons de travailler, d'avoir qu'est-ce que ça donne. Mais ce n'est pas juste une personne ou certaines personnes qui ont essayé, ça ne marche pas, et les autres, ça a essayé, ça ne marche pas. Ce n'est pas ça, ça va marcher. Mais juste, c'est quelque chose qui ça prend du temps. Et on trouve un endroit avec des gens, on travaille avec des gens qui ne donnent pas les valeurs. Et les valeurs que nous, on est en train de mettre, mais ils ne donnent pas les valeurs. Ils sont en train de donner de mauvaises des images de faire agriculteur, alors que c'est quelque chose qui porte beaucoup de choses, énormes choses. Mais... pour qu'on puisse réaliser ça, il faut qu'on soit être ensemble et travailler ensemble, être unis. Donc, pour donner la force aux agriculteurs, pour qu'on puisse avancer, quoi.
Et oui, de coopération, il en est toujours question. Comme on s'adresse majoritairement à un public urbain ce matin, même si on parle du monde agricole, Agnès, vous évoquez les conditions sur place. Enfin, vous reconnaissez qu'elles sont assez rudes, mais stimulantes. Et vous parlez d'un peu de Smith, du cadre supérieur, qui a d'un coup l'appel de la terre et qui se rend compte que finalement, c'est fatigant. Mais comment ça se passe concrètement, l'accueil des nouveaux arrivants dans votre établissement? À quelles difficultés vous faites face dans les premiers temps, et comment vous essayez de les motiver, si je puis dire?
Disons qu'il y a beaucoup d'effets de découverte, c'est-à-dire que les personnes qui viennent, viennent par curiosité et viennent sur un temps plus ou moins long. Alors la personne qui est restée le plus longtemps, c'était une Japonaise qui est arrivée, elle avait 67 ans, elle a travaillé pendant 5 ou 6 ans, maintenant elle est retournée au Japon où elle essaye aussi c'est un âge quand même qui est tout à fait respectable pour se lancer dans l'agriculture. C'est-à-dire 67 ans, c'est quand même pas rien. Et au Japon, elle continue encore à faire ce lien entre ce qu'elle a vu en fait sur cette ferme des Monts Gardés et puis ce qu'elle constate au Japon. Et elle continue à s'engager vraiment très de manière militante pour auprès du territoire dans lequel elle s'est installée. Donc elle a repris la maison de ses parents qui sont décédés à 100 ans l'un et l'autre, donc du coup elle a encore plein d'années devant elle pour œuvrer pour l'agriculture. Mais c'est vrai que c'était impressionnant la manière dont elle avait de travailler. C'était elle a tout de suite trouvé les bons gestes pour se fatiguer peu Et donc, avoir une ergonomie au travail, même si c'est beaucoup manuel, hein, c'est-à-dire moi je suis très très peu mécanisée, par choix et puis par non-choix aussi, c'est-à-dire j'ai pas tellement eu le choix de... Mais là, c'est un site où il n'y a pas l'eau, il n'y a pas l'électricité, donc effectivement il faut réussir à trouver des astuces en fait pour produire malgré tout. Et donc, j'étais vraiment impressionnée par cette femme. Et puis après, y en a eu d'autres qui sont venus, je vous dis, parfois un an, le week-end. Et certains ont essayé de monter un projet après personnel. Donc, il y en a qui ont réussi. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est que je reçois des entreprises qui, dans le cadre de ce qu'ils appellent les RSE, les responsabilités sociétales des entreprises, envoient des salariés pour travailler pendant une journée à des actions militantes, engagées.
Sensibilisation.
Sensibilisation. Donc, des fois, on se retrouve avec 50 personnes qui viennent d'Air France ou 50 personnes qui viennent de L'Oréal.
Et quelles réflexions vous avez quelles réflexions reviennent souvent? Est-ce qu'on vous promet de revenir?
Ah bah oui, il y a une promesse permanente. Après, elle est rarement suivie des faits parce que, en fait, il y a l'engouement du jour pour peu que ce soit une journée où il fait très beau. C'est vrai que c'est un moment de partage qui est super. Après, pouvoir revenir, c'est une autre étape. Donc il y a vraiment besoin de constance en fait dans ces métiers-là. C'est pas une fois de temps en temps. En fait, on peut le faire, donc on s'en sensibilise, mais on peut pas dire qu'on peut tenir en fait cette activité de manière trop dilettante. En fait, faut quand même s'engager.
Et s'engager avec les forces vives, vous le disiez. Est-ce que vous avez des leviers pour intéresser spécifiquement la jeunesse? On sait que je pense notamment des pages Facebook ou sur les réseaux sociaux, mais les éco-villages ont quand même le vent en poupe, les éco-communautés et autres. Est-ce que vous essayez de développer ce côté attractif vous parliez tout à l'heure de l'agriculture, le volet culturel de la pratique agricole. Comment vous attirez les gens en dehors de...
Alors, on peut pas
de l'intérêt général que vous servez.
Ouais. Après, je pense qu'on peut pas tout faire. C'est-à-dire, on peut pas être au champ et faire de la communication. Donc, moi, je suis assez nulle en communication, donc je communique pas. Après, face aux difficultés de recruter au lycée agricole, on s'est dit qu'il fallait quand même essayer d'intéresser. Donc, on essaye par les réseaux sociaux. Donc, le lycée agricole s'appelle Saltus Campus. Donc, il y a un site internet, il y a Instagram, Facebook. On essaye. Mais moi, j'ai déjà eu des jeunes, donc des enfants de parents que je connaissais, donc qui avaient 40 ou 50 ans, des jeunes qui sont venus pour m'aider. Et 15-16 ans, hein, et j'étais vraiment frappée, parce que là, c'est pareil, c'était des jeunes très, très impliqués et qui avaient envie. Et je me rappelle d'une jeune fille qui me disait, moi, je voudrais être agricultrice. Alors, je lui ai dit, c'est formidable. Elle me dit, oui, mais... En fait, mes parents, ils ne veulent pas. Alors, je dis, ah bon, mais pourquoi? Elle me dit, parce que je suis trop bonne à l'école et parce que je n'ai pas le physique. Et j'ai dit, ah, ça, c'est intéressant. Alors, effectivement, les enfants qui sont brillants à l'école, on ne va jamais les orienter de bonne heure vers l'agriculture. On va attendre qu'ils aient fait de grandes études, éventuellement qu'ils aient fait une partie de leur vie, puis après, c'est ceux-là qui vont revenir à 40-50 ans dans les champs. Et donc, effectivement, c'est une vraie question, c'est-à-dire pourquoi l'agriculture serait que une voie pour ceux qui ne sont pas... c'est presque un non-choix, c'est-à-dire sans trop caricaturer, mais quand même, dans les lycées agricoles, on voit soit des jeunes qui sont issus du milieu agricole, soit ceux qui ont échoué, en fait, dans d'autres filières. Et donc, c'est un peu la filière par dépit. Quand on ne fait pas ça par choix, c'est horrible, en fait, comme on dit. C'est-à-dire que sa vie, on doit pouvoir la choisir. Et par contre, quand c'est un métier de choix, c'est juste formidable.
Sembala, vous parliez de coopération tout à l'heure. Est-ce que vous avez des activités un petit peu annexes pour rendre votre collectif plus attractif, peut-être pour ramener un jeune public ou des publics différents? Est-ce que vous organisez des activités diverses?
En ce moment, on fait beaucoup de voyages d'enquête, et de villes et les villages, et pour discuter avec des associations, des collectifs, des gens qui ont déjà installé et qui ont vraiment pas mal avancé et qui connaissent dans ce domaine. Et pour faire des projections, on fait des bouffes, et après à la fin, on fait des discussions, des séances là-bas pour discuter ensemble si vraiment on peut collaborer, travailler ensemble, faire avancer les choses ensemble, si c'est possible, hein, aux prochaines années qui arrivent, quoi.
D'accord, donc aller à la rencontre et une certaine convivialité par le biais de repas, de projections. D'ailleurs, je crois que c'est le chiffonnier Gary qui vous a interviewé, qui a assisté à une des projections dans le super article que vous retrouverez dans notre numéro 7, car nous sommes toujours Le Chiffon qui radote, et Le Chiffon, c'est avant tout le journal de Paname et sa banlieue, le seul journal indépendant. Nous écoutons tout de suite un bel emblème de métissage culturel avec l'anglo-italien Pierce Faccini, Foghorn Calling. À tout de suite.
Thought I spied a ship at the harbor gate. Saw the mooring when the anchor dropped with the iron weight. Where is a will, there's a wanting. Where is a heart, there's something. Where is a will, there's a wanting. A hand to hope, a hope to hold, to drag forth the darkness from you. And the judgment flow. Heard a wailing when the world was cold, it was cold no more. Where does a wish, does a yearning? Where does a turn, does a burning? Where does a wish, does a yearning? A hand to hope, a hope to hold, to call forth the darkness from you. So for you, no denying when the log is lost, it can't be true. Where there's a will, there's a wanting. Where there's a heart, there's something. Where there's a will, there's a wanting. A hand to hope, a hope to hold, to drag forth the darkness from you.
Nous sommes toujours sur Radio Libertaire pour Le Chiffon qui radote. Revenons ensemble dans un mouvement qui s'annoncera central dans les années à venir avec Agnès Sembala et Habib. Pour introduire cette troisième partie, j'aurais voulu vous rappeler le combat de Cédric Héroux, Vous connaissez cet agriculteur de la vallée de la Roya fortement médiatisé, dont les origines bretonnes, allemandes et calabraises auraient produit d'après lui ce cocktail détonnant. Il dit lui-même que sans révolutionner la planète, il a contribué à fonder Emmaüs Roya après des démêlés judiciaires de plusieurs années pour avoir osé être solidaire. Il résume sa prise de conscience très sobrement en déclarant que chacun peut en faire autant. Un beau jour de 2016, alors qu'il prend sa voiture pour revenir des champs, il croise une famille de réfugiés épuisé venu de sa vallée à pied. Et je le cite, lorsqu'il dit qu'il faut se représenter la route sinueuse avec la falaise qui monte d'un côté en altitude et de l'autre qui tombe dans la Roya. Les laisser là aurait été de l'ordre de l'indécence. De là, s'en suivra un combat juridique intense avant que le Conseil constitutionnel ne statue en juillet 2018 sur le fait que le principe de fraternité a valeur constitutionnelle. Et je cite le Conseil qui dit qu'il découle du principe de fraternité la liberté d'aider autrui dans un but humanitaire, sans considération de la régularité de son séjour sur le territoire national. Habib Sembala et Agnès, j'aimerais qu'on revienne un moment sur le climat en France. Et peut-être d'abord, je vais me tourner vers vous, Sembala. Comment s'est passée votre arrivée? Est-ce que vous avez souffert vous-même du manque de solidarité? Ou à l'inverse, est-ce que vous avez des beaux exemples de solidarité dont vous avez vécu en arrivant?
En arrivant, des solidarités et ça change quoi. Parce que quand je vois mon arrivant avant et en ce moment, c'est encore plus difficile et chaque fois que je le vois. Parce que avec de l'État, et à chaque fois, ils changent des lois. Et ils sont, c'est des gens qui sont solidaires, qui ont envie d'aider à ceux qui ont besoin d'aide et faire tout le monde puisse faire ce qu'il a envie de faire. Mais... créer une dynamique entre gens qui viennent ailleurs, ces gens qui vivent ici, on puisse être vivre ensemble, on faire des choses qu'on aimerait faire ensemble. Mais avec changement des choses des climatiques, et ça devient difficile, plus en difficile encore. Mais nous, en tant qu'étrangers, j'ai dit, je viens dans un pays et je ne connais pas leur culture, je vais prendre leur culture. Et je vais voir qu'est-ce que moi je vais faire à la prochaine année qui arrive. Je ne peux pas rester comme ça. Et je dois avancer des choses et aider à mes frères, mes sœurs qui ont besoin d'aide. Quoi.
Agnès, vous êtes pionnière dans cette idée d'inclure des personnes en situation irrégulière dans cette pratique de l'agriculture renouvelée. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur le fait que vous soyez seule, bien que vous me confiez hors antenne que vous ne vous sentiez pas la plus légitime pour parler de ça, et pourtant vous avez un projet pionnier.
Oui, alors, non, mais ça c'est sûr. Je pense qu'il y a plein d'autres personnes qui font des choses sans le dire. Et je pense au réseau CIVAM que vous connaissez certainement, qui est un réseau d'agriculteurs qui accueille depuis très très longtemps dans les fermes, que ce soit enfin. Des personnes en difficulté, alors que ce soit des femmes isolées ou que ce soit des personnes migrantes, enfin en difficulté. Ça, c'est sûr que les fermes ont, dans ce réseau-là, toujours été des terres d'accueil. Donc, effectivement, moi, je suis loin d'être la plus représentative de ce qui se fait partout en France. Évidemment, c'est des choses dont on parle assez peu. Voilà, c'est des initiatives d'humain à humain, je dirais. C'est peut-être celle-là qui compte le plus. C'est vrai que moi, pour reprendre là ce qui a été dit, quand on regarde ce que disent les lois, par exemple, quand on prend la charte pour l'environnement qui est constitutionnelle, donc qui est au même titre que les droits de l'homme, il est dit chacun a le droit de vivre dans un environnement sain et équilibré pour la santé. Chacun, c'est-à-dire tout le monde. Donc, si on applique ça, je me dis, est-ce que on n'a pas le devoir d'aider tout à chacun à accéder à ce droit fondamental? Voilà. Alors après, papier ou sans papier, effectivement, là, il y a...
Le Conseil constitutionnel nous dit que ce n'est plus une condition.
Voilà. Exactement. Donc, à partir de là, est-ce que ça veut dire que quand on fait ça, on est, est-ce qu'on est hors la loi ou au contraire, on incarne la loi? Je ne sais pas. J'ai l'impression qu'en finalement, il y a beaucoup de choses contradictoires dans les lois. Et donc, suivant ce qu'on choisit de suivre, on fait comme en étant en accord avec soi-même ou pas. Et moi, je trouve ça formidable, ces fermes Emmaüs qui commencent à naître, c'est extraordinaire. Moi, j'en suis loin.
Hein. Vous avez perçu des résistances? Comment s'est déroulé l'accueil des agriculteurs sur place? Moi, je viens du monde agricole, on peut regarder avec circonspection le nouvel arrivant. Oui. En champ d'à côté, comment sont perçues vos pratiques? Par les gens implantés depuis des générations.
Disons que moi, c'est un peu particulier parce que je me suis toujours présentée comme quelqu'un qui faisait des expérimentations et pas du tout comme quelqu'un qui voulait faire modèle. En fait, moi, j'expérimente des choses et après, je fais des constats et je vois ce qui marche et ce qui marche pas. J'ai pas du tout le fait que j'ai pas l'eau et pas l'électricité, c'est pas un choix. C'est-à-dire, si j'avais le choix, j'aurais eu l'eau et l'électricité. Et puis peut-être que j'aurais été mécanisée si j'avais pu. Mais là, en fait, c'est tout un parcours qui a fait que 20 ans plus tard, après avoir commencé les premières expérimentations, j'en suis là. Je trouve que c'est formidable parce que ça m'a appris, en fait, cette frugalité dans les moyens. Je m'entends très bien avec les agriculteurs voisins. Il y en a qui sont dans des modèles agricoles, mais radicalement différents, qui sont très mécanisés, qui ont 700 hectares, 300 hectares, mais en fait, on arrive vraiment à discuter parce que chacun est en mesure de faire la critique du modèle dans lequel il est. Et finalement, il y a des problèmes communs. Par exemple, l'épuisement des sols. Par exemple, le fait de s'ennuyer au travail. Ça, c'est quelque chose incroyable. C'est-à-dire que quand on a 700 hectares et qu'on fait tout au tracteur, les journées sont longues et pas très intéressantes. Donc le fait de vouloir se diversifier, c'est quand même quelque chose qui est assez partagé.
Donc vous contribuez à une sorte de synergie par la différence avec le modèle d'exploitation des voisins. Je me tourne vers vous, Sembala et Habib. Vous, le rapport au voisinage se passe comment? Comment vous êtes perçu dans votre tournée un petit peu
Des voyages d'enquête?
Des voyages d'enquête, voilà.
Des voyages d'enquête qu'on a fait, et tout déroule bien. Certains endroits, ça c'est sûr, ils sont pas. Les dynamiques, c'est pas pareil, quoi. La caille et tout ça, et ça passe pas comme on veut, mais il faut parfois qu'on accepte et vivre avec, et parce que c'est pour ça qu'on voulait savoir la difficulté, la problématique qui empêche, c'est des gens qui écartent dans les sociétés. Et comment nous, on peut trouver solution pour ces gens qui ont rejeté et puissent accueillir et dignement et faire ce qu'ils ont envie de faire. Et certains endroits, il y a des racismes, mais c'est quelque chose ça fait longtemps. Mais il y a des possibilités, dès que ça reproduit, il faut qu'on parle, quoi, parce que nous, on est en tant qu'immigrés, les racismes, on voit partout, à chaque endroit qu'on passe, on voit. Donc on voulait que, voilà, du coup, ça cesse, quoi, donc ça arrête. Et on a trop souffert, donc trop c'est trop, donc on voulait que, voilà, du coup, on voulait juste, on n'est pas ici, on n'est pas de crime, on ne voulait rien, on est ici juste pour vivre et être soi-même et dignement. Donc j'espère que, voilà, du coup, c'est normal, chacun a envie de faire sa vie là où il vit, quoi. C'est ça, dans ton pays, là où tu vis. C'est pas juste là où je suis né, c'est juste qui est dans mon pays. Et là, exactement, je suis en France, c'est France dans mon pays. Donc si je retourne dans un autre pays, c'est là que je vis, et ça, dans mon pays, c'est pareil, quoi.
Et d'intégration, il en était question sur France Culture le 30 novembre dernier avec deux portraits dont je vous recommande l'écoute. avec deux portraits donc croisés d'agriculteurs dont l'un se reconnaît d'extrême droite tout en reconnaissant le problème de dépeuplement des campagnes. Et le deuxième, je sais que je vais faire grincer des dents le rédac-chef par mon optimisme forcené, mais l'histoire est trop belle. Le second portrait d'un certain David, dont le nom de famille n'est pas connu, il est présenté comme longtemps en accord avec des valeurs d'extrême droite et il considérait qu'il fallait protéger la France avant de faire rentrer de la main-d'œuvre étrangère. D'abord méfiant, il a finalement embauché, et peut-être par nécessité, un Marocain venu travailler dans son exploitation. Et lui et cet homme ont développé une relation amicale qui l'amènera finalement à modérer son vote aux dernières élections. Et je cite ce monsieur qui était au micro de France Culture, « Sa mentalité m'a fait me remettre en question sur beaucoup de choses. Qu'est-ce qui est important dans la vie? Je ne pensais pas vraiment m'attacher à mettre le salarié au cœur de l'exploitation comme ça. » Donc nous avons... Voilà, une espèce de... le portrait d'une rédemption. Est-ce que vous avez été témoin de ça et du changement palpable dans l'état d'esprit de certaines personnes? Est-ce que vous avez vu les esprits changer?
Moi, je peux peut-être voir... je peux rappeler le discours qui est bas, qu'il parle souvent. Pareil, il dit oui, on arrive en Andalousie, je crois. Il a commencé à connaître quelques personnes. Mais il y a une personne en fait qui joue juste le football en fait ensemble. Il y a quelqu'un qui a pas de papier. En fait, en connaissance, et le gars il dit ok, là maintenant je te connais, vas-y je peux t'aider en fait de te permettre à tu vois tes papiers quoi. Donc des fois il faut je sais pas, la relation elle passe en connaissant comme vous racontez tout à l'heure. Ça c'est tout à fait normal quoi.
Donc, par la connaissance et tout simplement aller vers l'autre, on ne va pas réinventer l'eau tiède. Agnès, est-ce que vous avez, ça vous évoque quelque chose une...
Ah bah oui, c'est sûr que dans les agriculteurs qui sont autour de moi, et c'est vrai qu'il y en a qui sont pas tout à fait enclins à accueillir de la main-d'œuvre étrangère, mais... vraiment, je pense que c'est un problème de méconnaissance, hein, puisque c'est vrai que quand il y a une rencontre qui peut se faire dans ma ferme, justement, en mêlant des agriculteurs du coin et puis d'autres personnes venues de pays différents, mais quel que soit le pays d'ailleurs, bien on voit que il y a un dialogue qui se met en place et que au bout d'un moment ça n'a plus lieu en fait, il y a plus de différence, on voit plus ni la couleur différente ni l'accent ni rien, c'est-à-dire on discute et puis ça marche. Donc je dans les campagnes de toute façon, c'est vrai que le racisme, s'il y en a, c'est parce que il y a la peur en fait, on connaît pas ces personnes qui viennent chez nous là, pourquoi faire? Et donc c'est sûr qu'on aura envie de croire que plus on se connaîtra, plus il y aura d'échanges, plus ça passera quoi. Donc moi je pense que plus il y aura de la possibilité d'accueillir dans les campagnes, plus il y aura la possibilité d'ouvrir les esprits, on l'espère, mais c'est vrai que c'est un fait, il y a un racisme latent, plus ou moins avoué.
Vous dites que votre projet a essaimé et des gens qui sont venus vous voir ont exporté ce modèle, est-ce que...
Moi, je vous dis, je suis pas un modèle. Hein. Il y a eu des inspirations. Après, chacun fait, et c'est ça qui est bien. En fait, je pense que l'agriculture, c'est vraiment une branche où on peut exprimer des choses et trouver la meilleure façon qui nous va de faire son projet. Alors, évidemment, il y a un cadre. Alors, je sais pas. Moi, je serais intéressée de voir comment, de l'extérieur, on perçoit la réglementation française par rapport à l'agriculture. C'est vrai que ça, c'est quand même très, très contraignant et que on a, il faut faire avec. Mais ça n'empêche que il y a une possibilité. Avec cette entrée de l'agroécologie, de la diversification, etc., d'inventer son projet de vie. Parce que être agriculteur, c'est vraiment un projet de vie. On s'implique à beaucoup. Donc je pense que c'est des métiers de passion. C'est pas et ça, c'est, il faut vraiment en avoir conscience. Pour être heureux dans ce métier, il faut que ce soit une passion. Sinon, on peut souffrir.
Et allez, pour accompagner cette note d'espoir, écoutons tout de suite les représentants de ce qui est dénommé la French Touch. J'ai nommé R avec le voyage de Pénélope et on se retrouve dans quelques instants pour la dernière partie du Chiffon qui radote. Et nous revenons en terre d'Île-de-France avec trois de ses laboureurs les plus productifs, ou en tout cas des gens qui contribuent à agrader les territoires d'Île-de-France pour cette dernière partie d'émission du Chiffon qui radote. Au nombre des combats de l'association A4 figure celui d'accéder à la terre. Et nous parlions pendant le disque des difficultés juridiques que cela recouvre. Un chiffonnier s'est entretenu avec William Loveluck, dont j'aimerais vous porter la parole avant de revenir au sujet, qui est un chargé de recherche et d'analyse pour Terre de Liens, et il déclarait que ceux qui ne sont pas socialisés dans ce milieu n'ont pas accès à l'information en cas de transaction de surface agricole. Dans le cas de transfert de propriété, la candidature d'A4 auprès de la SAFER, en présentant des profils bien souvent sans diplôme agricole, ne pèse pas lourd. D'où l'intérêt, selon vous, que l'association A4 monte une coopérative de travail agricole et que Terre de Liens mette à disposition des terres dont elle serait propriétaire. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur cet élan pour aller vers plus de terres pour développer votre projet, tout simplement? Vous en êtes où aujourd'hui avec toutes ces difficultés?
En fait, on continue à chercher, en fait, à avoir juste une ferme, en fait, parce que la ferme, elle peut être en base pour A4. En fait, on accueille les personnes d'abord de la ferme. Après, une fois elle est dans la ferme, parce qu'on sait, en fait, la difficulté aussi d'être migrant, quoi. Tu viens aussi, tu as des problèmes psychiques, des fois, tu vas pas bien. Donc, La base de la ferme, si je viens à la ferme, on t'accueille une semaine peut-être, deux semaines, on voit comment tu vas. Et est-ce que le travail, vraiment, l'agriculture, ça l'intéresse, ou l'artisanat. À partir de ça, on est dans un réseau en fait, d'accueil. Déjà, on a pas mal de paysans qui voulaient accueillir. En même temps, on fait partie du collectif qui est en train de réfléchir en fait, les Eurocas. C'est parallèle de Emmaüs, Emmaüs Roya. Par exemple, oui, on a un réseau, on a monté en fait un réseau de lieux qui ont envie à investir et faire le changer le statut en tout cas de Emmaüs pour le prendre, pour essayer le travail quoi. Donc la femme, elle va permettre aux personnes, ils viennent, elle accueille la femme, après et ils partent de leur réseau qui développe en France.
Ouaka, c'est un organisme. Ouaka, c'est un organisme accueil communautaire, activité et solidaire.
D'accord.
Donc, c'est comme Emmaüs, mais il est différent. Mais on a fait une rencontre déjà à Mas des Graniers. Il y avait 14 associatifs qui ont réuni là-bas pour réfléchir ensemble comment on peut créer un autre Ouaka pour qu'on puisse travailler ensemble et ces gens qui ont besoin d'aide pour qu'ils puissent travailler et dignement et travailler également. Donc on a une réunion, on a une rencontre aussi et ça va être lieu les 4 et 5 mars à Toulouse.
Les 4 et 5 mars à Toulouse, l'appel est passé. Agnès, vous me parliez de toutes ces difficultés juridiques et on voit bien entre des populations en souffrance, en apprentissage de la langue et le cadre réglementaire très contraignant, à quoi vous vous heurtez principalement ?
Ah ben, oui, c'est ça la difficulté. C'est déjà, quand on n'est pas migrant, accéder à la terre, quand on n'est pas issu du milieu agricole, c'est déjà pas simple. Alors, quand on est migrant, c'est je pense, encore plus difficile s'il n'y a pas de structure qui fédère, en fait, et qui rende solidaire toutes ces difficultés. Après, il y a la possibilité d'être ouvrier agricole. Ça, c'est des choses qui sont possibles dans les fermes. C'est différent, c'est-à-dire c'est pas le projet de la personne, c'est une personne qui prend part à un autre projet. Donc ça, c'est quelque chose qui peut se faire à partir du moment où il y a une rencontre, en fait. C'est-à-dire que souvent, dans les fermes, on ne connaît pas les migrants qui cherchent. Donc il faut réussir à faire le pont entre ces deux besoins qui doivent se rencontrer. Je pense aussi que c'est important qu'il y ait ce sésame de la compétence agricole qui peut permettre à des migrants de s'installer, donc avoir le diplôme qui permet ça. Donc c'est ce qu'on essaye de faire dans notre lycée agricole, que les personnes soient avec ou sans papier, en fait, ils peuvent être accueillis dans ce lycée agricole pour passer un diplôme. Donc cette année, il aurait fallu qu'ils aient moins de 25 ans. L'année prochaine, on espère pouvoir accueillir des adultes pour passer ce diplôme agricole qui donne la compétence et qui permet justement de prétendre accéder à la terre en tant que, enfin, pour s'installer soi-même.
Et comme nous sommes une émission qui a vocation à s'adresser avant tout aux Parisiens et aux Franciliens, est-ce qu'il y a une spécificité du territoire francilien ? Est-ce qu'il y a un type de ferme particulier ? Est-ce que vous avez des soucis qu'il n'y aurait pas ailleurs, peut-être dans la diagonale du vide, que Macron d'ailleurs a annoncé vouloir repeupler en 2022 dans un discours sur la loi immigration ? Nous y reviendrons dans une prochaine émission. Est-ce qu'il y a vraiment des difficultés particulières à s'installer en Île-de-France qu'il n'y aurait pas dans le Larzac ?
C'est pas les mêmes difficultés, mais en Île-de-France, on a les terres les plus fertiles peut-être du monde. Alors, déjà d'Europe, ça c'est sûr, mais donc cette fertilité des terres a fait qu'il y a eu des grosses fermes qui se sont implantées, qui sont des propriétés familiales. Donc il y a vraiment une mainmise sur le foncier agricole de famille qui est... même s'il y a, je dirais, des départs en retraite, en fait, ce qui se passe, c'est que les fermes deviennent de plus en plus grosses. Et donc on part. Enfin, voilà, c'est un peu un entre-soi quand même de répartition des terres agricoles. La plupart des corps de ferme se transforment en lieux d'accueil, mais pas de migrants, hein, plutôt de tourisme ou de gîtes ou de choses comme ça. Donc le bâti agricole perd de sa fonction agricole. En plus, il est considéré qu'il n'est plus adapté aux grosses machines et aux besoins. Donc les sièges de ferme disparaissent et donc le bâti agricole se mute. Donc ça, c'est aussi un problème. Et donc, ces grosses fermes, elles vivent beaucoup sur les aides PAC. Donc, globalement, elles sont pas tellement... Enfin, sont moins en difficulté que des petites exploitations qui ont moins d'aide. Donc, cette logique d'avoir des fermes qui deviennent de plus en plus grandes en termes de surface cultivée, c'est la logique générée par la PAC, en fait, où on est rémunéré à la surface.
En début d'émission, voilà, on est rémunéré. On est encore dedans.
Complètement. Mais au bout d'un moment... Quand on veut diversifier le modèle, on se rend compte que ça tient pas, parce que effectivement, un seul chef de culture peut s'occuper avec des grosses machines de centaines d'hectares, mais quand il y a des difficultés diverses qui sont liées, par exemple, au fait qu'il faut installer des haies brise-vent parce que les cultures sont en train de, enfin, sont trop soumises aux aléas climatiques, donc l'arbre peut être un allié. Quand on se dit qu'il faut peut-être commencer à redécouper les parcelles différemment, donc là on se dit il faut plus de monde dans les champs. Donc il y a un effet machine arrière, où après avoir simplifié le système et dépeuplé les fermes, aujourd'hui certaines fermes, et c'est loin d'être la majorité, a envie de repeupler à nouveau et de diviser en fait les grandes surfaces. C'est pas encore un mouvement massif. Hein. C'est quelques fermes qui font ça. Il y a quelques exemples de fermes collectives qui se sont installées. Donc que ce soit la ferme des Clos dans les Yvelines ou la ferme de Cambreux en Seine-et-Marne. Voilà, c'est des fermes pionnières comme ça d'installation collective.
Sembala et Abib, peut-être, est-ce que dans vos tournées des pop-pots, vous avez découvert des nouveaux projets d'agriculture en Île-de-France qui vous ont inspiré pour l'avenir?
On a visité la ferme d'Agnès, la ferme de Combo, comme elle a dit tout à l'heure. Et aussi, je vous rappelais, on a le 28, on va projeter notre film Égal à Égal à la ferme de Combo.
Qui est sur la station, qui est accessible en transport en commun?
La ferme de Combreux, je ne sais pas.
RERD, donc un simple Navigo vous permet d'aller vous dépayser. N'oubliez pas, on parle au public d'Île-de-France. Pour terminer, Agnès, est-ce que vous avez... Donc, en faisant mes propres recherches, c'est vrai que j'ai vu qu'il y avait des fermes pédagogiques pour les enfants, des fermes de tourisme. Alors, vous parliez tout à l'heure que vous aviez des fois 54 d'Airbus. Est-ce que dans une
d'Air
logique...
France.
D'Air France, pardon. Est-ce que vous avez, dans cette logique, malheureusement, de pérennité, il faut aussi dégager un minimum de ressources, peut-être pour un jour avoir l'eau courante. Est-ce que vous allez essayer de développer des activités annexes? Vous l'avez dit tout à l'heure, vous n'êtes pas communicante, mais...
Moi, je pense qu'il faut recréer du lien entre les urbains et les ruraux, ça c'est sûr. Et c'est pour ça aussi que le lycée agricole dont on parle, Saltus Campus, donc recrute des élèves qui sont dans le 93, donc à Sevran. Donc c'est des urbains. Et le plateau technique est dans le parc du Gâtinais, dans le parc naturel du Gâtinais. Donc c'est vraiment très très rural. Et donc on voit que le fait de faire ce lien entre la ville et la campagne est une vraie nécessité. Donc pour moi, accueillir des urbains dans ma ferme est quelque chose auquel je crois pour de l'interconnaissance, mais également pourquoi pas pour des revenus complémentaires. Là pour l'instant, c'est pas là-dessus qu'est basé mon modèle économique, mais c'est vrai que de plus en plus de fermes peuvent dégager justement un revenu complémentaire en accueillant des urbains qui ont envie, qui ont soif quand même de mieux connaître le monde agricole. Donc oui, s'il y a des modèles économiques à réinventer, notamment autour de cette solidarité ville-campagne, ça j'en suis convaincue.
Donc nous l'aurons compris ce matin, il était question de mélanger les urbains et les ruraux, mélanger les sans-papiers avec ceux qui ont la petite carte d'identité RF. Une petite recommandation en partant, un documentaire magnifique signé de Rémi Mauger qui s'appelle Paul dans sa vie. C'est bien d'avoir écouté ce que nous disions ce matin, mais mettre un petit peu d'image pour que tout cela ne reste pas abstrait. Si vous vouliez avoir un aperçu de ce à quoi peut ressembler une vie paysanne réellement à l'ancienne, avec quelques rares machines quasiment centenaires, le tout avec poésie dans une des plus belles côtes de France, foncez, vous ne regretterez pas le voyage. C'était Le Chiffon Radote, l'émission du seul journal indépendant de Paris et sa banlieue. Nous sommes tous bénévoles, je le rappelle. Si vous nous écoutez ce matin, vous pouvez nous écrire à le-chiffon@riseup.net. Vous trouverez notre adresse mail complète sur notre site. Le Chiffon numéro 7, c'était un dossier d'investigation sur l'histoire de la start-up et ses ramifications actuelles, bien loin du sujet du jour. Vous aurez une déambulation dans le salon Vivatech, une balade dans le Silicon Sentier. Vous ne savez pas ce que c'est ? Eh bien, je ne le savais pas non plus avant ce numéro 7, alors venez nous lire. Et oui, Le Chiffon est ambitieux, éclairé, dénoncé, recommandé et divertir, avec cette fois une grande première, un beau jeu de plateau sur l'histoire de la start-up tout à fait disruptif pour apprendre en vous amusant. Une foule d'autres thématiques, je vous laisse les découvrir. Pour trouver notre canard vendu pour le prix de 3 croissants, un abonnement pour le prix d'une demi-galette des rois, vous pouvez notamment aller au bar de l'anecdote à la commune d'Alic dans le 12e, le lycée autogéré de Paris dans le 15e, les librairies amies, le mont en l'air, le genre urbain, l'atelier, le maire, le moqueur, entre autres. C'était Le Chiffon Radote avec Habib Essembala, des membres fondateurs du collectif A4 qui ont à cœur d'être solidaires alors qu'on n'a pas toujours été solidaires avec eux. Et enfin, une Agnès Sourisseau, pionnière de la ferme des Montgardets, qui garde ce matin toute son humilité au micro alors que son projet sert l'intérêt général. À la technique aujourd'hui, Gary Libaud, pilier taulier du Chiffon, auteur de l'article d'investigation sur cette relève paysanne, présenté par votre fidèle serviteur, Paul ou Laurence, comme vous voulez. Rendez-vous tous les deuxièmes jeudis du mois pour Le Chiffon Radote. Et d'ici là, écrivez-nous, faites-nous part de vos coups de cœur, de vos coups de gueule, je le répète, des idées de sujets. Nous sommes ouverts à toutes les propositions. Vous avez 2 mois pour écrire dans le numéro d'été. Apparaître bientôt un numéro 8 sur les mobilités en Île-de-France. Et croyez-moi, ce n'est pas ce que l'on croit. Car Le Chiffon, c'est aussi ça. Partir de l'acquis et gratter derrière l'évidence de ce qui se présente toujours comme le mieux. Ce journal n'existe que par la passion de ses petites mains. Alors si vous êtes passionné et que vous avez des mains, venez donc. À ciao. Bonne journée.
question ou pas?
Bravo.
Yes, tu peux. Ici, là?
Ouais.
Allez, hop. Thank you.
Thank you. Radio Libertaire 89.4.
La radio de la Fédération anarchiste, la voix sans Dieu ni maître.
Pour nous soutenir financièrement, on a toujours besoin de vous pour continuer d'émettre. Et renouveler le matos, par exemple.
Vous pouvez télécharger un bon de souscription pour soutenir votre radio sur le site de la Fédération anarchiste.
Et qui est bien sûr modulable selon vos moyens.
Ta radio, tu l'aimes ?
Alors tu la soutiens.
Pour télécharger votre bon de souscription à Radio Libertaire, rendez-vous sur le site www.radio-libertaire.net.